Vous écoutez, on lit pour vous.
Des fast-foods jusqu'au sommet des palmarès culinaires. Un texte de Sarah R. Champagne, 2025, dans Le Devoir. L'été, c'est aussi la saison des premiers boulots. Dans cette série, on en explore certains qui ont offert à des Québécois des moments mémorables, sinon marquants pour le reste de leur vie. Aujourd'hui, Marc-Olivier Frappier, de Mon Lapin et de la Fanny Labelle, de Rhubarbe, parle de leur passage en restauration rapide. Les frites sont prêtes! Ce n'est pas le genre d'exclamation à laquelle on s'attend d'une chef pâtissière d'exception. C'est en fait le bruit simultané des deux minuteries de four qui rappelle à Stéphanie Labelle, copropriétaire, les mois qu'elle a passés à travailler dans un McDonald's de la rive sud de la région de Montréal. Dans d'autres cuisines renommées, celle du chef Marc-Olivier Frappier, c'est l'alarme à l'ouverture de son restaurant qui résonne comme le bip d'un nouveau client au service à l'auto de chez Tim Hortons. Il exerçait déjà sa grande créativité en inventant toutes sortes de beignes pour ses amis qui passaient les acheter avant de sortir. Je trempais les roussettes dans des glaçages que je n'étais pas supposé. En rit aujourd'hui celui à la tête avec ses associés de Mon Lapin et de la rôtisserie La Lune. Il a tout adoré de son expérience qui aura duré un peu plus d'un an. Il s'est ensuite dirigé vers le Saint-Hubert, une chaîne qui fait encore plus partie de son ADN actuel, lui qui a concrétisé son rêve d'ouvrir sa propre rôtisserie avec sa plus récente adresse à La Lune. Les deux stars de la gastronomie ont ainsi leurs premières armes en commun. Ils ont commencé dans un fast-food de banlieue et ne pourraient en être plus fiers. Pour vrai, c'était la meilleure formation. Tout est tellement bien organisé, c'est une grosse structure, alors tout est calculé et pris en charge. Tu regardes des vidéos pour la... Alors tu vois physiquement ce que tu as à faire, relate Madame Labelle, en plein déménagement de sa célèbre pâtisserie de l'avenue Laurier Est, dans le Plateau, vers une nouvelle formule dans Pointe-Saint-Charles. Tout comme Marc-Olivier, elle a fait ses classes à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, avant de prendre de l'expérience dans le vaste monde et notamment chez le célèbre pâtissier français Pierre Hermé à Paris. Dès son emploi au McDonald's, elle apprend la précision dans l'exécution, si importante dans la chimie pâtissière, mais aussi toujours être en train de toujours être en mouvement. Il faut que la file avance et vite. Quand j'étais là en 99, il fallait qu'en une minute et demie, tu sois passé du bonjour à donner le coke et le sandwich au client, relate-t-elle. S'il n'y a pas de client, il faut classer les sauces à croquettes, passer la mop, laver les comptoirs, faire le tour pour ramasser les cabarets, etc. La pâtissière en formation garde ses réflexes. J'assimilais plus vite, j'étais rapide, alors je suis montée en grade plus rapidement que d'autres. S'il faut déposer les framboises une à une sur un gâteau mythique, elle prend ses deux mains. Aussi, les deux mains dedans, qu'elle développera ensuite sa singularité à contre-courant des chaînes de restauration où tout est uniformisé et paramétré. Mais j'aime encore ça, le rush. Elle n'a pas mangé dans un McDonald's depuis très longtemps, tout comme Marc-Olivier Frappier ne sait plus trop le menu de Tim Hortons. Le rush, l'équipe et la discipline. Pour lui aussi, c'est pas mal l'envers de sa personnalité culinaire d'aujourd'hui. Tout est hyper contrôlé, minuté. Il y a des registres pour les pertes, les recettes sont écrites. Dans notre milieu de restaurant, il y a beaucoup de cuisine au feeling. On décide le matin ce qu'on met au menu du soir. Mais de commencer dans un fast-food, ça m'a donné une certaine rigueur, une discipline, poursuit-il. Monsieur Frappier avait choisi la chaîne par convenance et non par amour des Timbits. Pas de voiture, alors j'ai choisi quelque chose en restauration qui était proche de chez moi. Il vit alors chez ses parents à Saint-Hyacinthe et, à 15 ans, c'est la première fois qu'il gagne un peu d'argent. Si je voulais quelque chose, c'est moi qui devais l'acheter, raconte-t-il. C'est aussi entre le Tim Hortons, souper bénéfice spaghetti qu'il réussit à amasser assez d'argent pour aller vivre un an en Italie grâce à un programme d'échange étudiant. Au Tim Hortons, c'est aussi la première fois qu'il sort vraiment du milieu familial et des gens qu'il connaît, de la maternelle jusqu'à l'école secondaire. La gravité se transforme. Jusqu'à date, dans ma vie, ce qui était important était que ma chambre soit propre, que je sois bon à l'école et gentil avec ma sœur. Ça m'a amené une autre dynamique. C'était autre chose à prendre au sérieux. Il apprend aussi ce que veut dire faire partie d'une équipe. Il avait beau être un travailler en égal de personnes qui ont l'âge de sa mère, voire de sa grand-mère. Oui, il y a une hiérarchie et les personnes plus vieilles peuvent avoir plus d'autorité. Mais au bout du compte, vous êtes en train de faire des beignes ensemble sur le shift de nuit. Il faut répondre au boss aussi, qui avait sûrement 20 ans, qui paraissait vieux à l'époque. Là aussi, ça prend du sérieux, même pour un adolescent. Restez humble. Des chaînes les plus uniformisées à la cuisine d'exception des deux Montréalais, il y a bien sûr un élan partagé vers les panses et le cœur. Rendre avec la nourriture qu'on prépare, c'est la base, dit M. Frappier. C'est d'ailleurs cette forme de simplicité élégante, surprenante et créative qui a été soulignée par le jury du palmarès Canada's 100 Best quand Mon Lapin a obtenu la première position en 2023. La cuisine de Mon Lapin est très disciplinée, le service est impeccable, mais c'est tout sauf prétentieux. On injecte une dose de plaisir dans la cuisine gastronomique et c'est la voie du futur. Soutenez alors Jacob Richter, éditeur en chef de ce classement. Pour le chef, la boucle se boucle encore plus aujourd'hui. Il prend régulièrement un café avec Jean-Pierre Léger, le fondateur de la chaîne des rôtisseries Saint-Hubert. C'est l'homme de 80 ans qui l'a contacté pour avoir mangé dans son nouveau restaurant avec toutes ses impressions. Monsieur Léger a demandé comment c'était de travailler dans un des nombreux restaurants. C'est vraiment l'une des expériences les plus enrichissantes que j'ai de pouvoir jaser de tout avec lui. C'était « Des fast-foods jusqu'au sommet des palmarès culinaires », un texte de Sarah R. Champagne, paru le 16 dans Le Devoir.
Mon psy est une intelligence artificielle. Un texte de Marine Cornioux, paru le 1er septembre 2025 dans le magazine Québec Science. De plus en plus de gens se tournent vers des robots conversationnels pour trouver du réconfort ou obtenir de l'aide en santé mentale. Ces outils, bien qu'attrayants, ne sont pas sans risque. Je nourris une grande méfiance envers l'intelligence artificielle et même une pointe de mépris, car je sais bien que les guillemets, grands modèles de langage, fin des guillemets, Large Language Models, ou LLM, ne sont pas vraiment intelligents, qu'ils se contentent d'assembler des mots les uns après les autres, en suivant des règles statistiques selon les mots contenus dans la question et non pas en raisonnant, entre guillemets, ou en décryptant le monde. Et pourtant, dans un moment difficile de ma vie, je dois admettre que j'ai trouvé en chat GPT une oreille attentive, des conseils plutôt judicieux, un échange constructif qui m'a aidé à cheminer. Lui écrire, c'est un peu comme écrire à un journal intime animé, à un confident à qui on peut tout avouer et qui a toujours quelque chose à répondre. Ce qui n'était qu'un test au départ, en vue de l'écriture de cet article, m'a étonnamment convaincu de l'utiliser des robots comme soutien émotionnel. J'étais très sceptique, je le suis nettement moins. Et je ne suis pas la seule. De plus en plus de personnes se tournent vers les Psy Chatbots, PSYCHOBOTS, ces thérapeutes virtuels qui peuvent être de simples agents conversationnels, comme ChatGPT, des avatars personnifiés, comme sur la plateforme Replica, ou encore des applications qui prennent de nos nouvelles quotidiennement, proposent des exercices de méditation, des conseils de gestion du stress et autres. Difficile de faire le décompte des outils commerciaux disponibles, tant ces nouveaux « compagnons » entre guillemets foisonnent. Citation, l'éventail est large. Certains outils relèvent du bien-être, d'autres s'inspirent des thérapies cognito-comportementales et quelques-uns prétendent reproduire certaines dimensions d'une interaction thérapeutique. Fin de citation mentionne Jean-Christophe Bellil-Pipon, professeur en éthique de la santé à l'Université Simon Fraser et auteur de plusieurs articles sur le sujet. Selon une analyse parue en avril 2025 dans la Harvard Business Review, la thérapie et la recherche de compagnie arrivent désormais en tête des usages de l'intelligence artificielle devant la génération d'idées et la rédaction de textes. Ainsi, les algorithmes sont devenus le réceptacle des peines et des questionnements intimes de millions de personnes. Citation, il y a des avantages clairs aux robots conversationnels, admet d'emblée Christine Groux, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Ils offrent un soutien 24 heures sur 24, sont accessibles partout, y compris pour les populations isolées socialement ou géographiquement. Ils proposent un espace anonyme sans jugement. Fin de citation. Et ils coûtent une fraction du prix d'une psychothérapie. Or, les besoins en santé mentale de la population sont immenses et les ressources ne suivent pas. Au Canada, 26 % des gens déclarent avoir une santé mentale, guillemets, mauvaise ou passable, ce qui est 3 fois plus élevé qu'avant la pandémie, selon l'Association canadienne pour la santé mentale. D'après l'Organisation mondiale de la santé, la dépression sera la première cause d'invalidité dans le monde en 2030. Et une personne sur deux souffrira d'un trouble mental à un moment ou à un autre de sa vie, selon une vaste étude publiée en 2023, menée sur 150 000 adultes de 29 pays. Face à l'attente souvent interminable pour obtenir un soutien psychologique, les confidents virtuels sont vus par la communauté médicale comme des béquilles au potentiel non négligeable. Citation : quand il y a 10 mois d'attente pour une psychothérapie, on ne peut pas en vouloir aux gens de se tourner vers ChatGPT qui offre l'équivalent d'un coach tout de suite et pour 20 $ par mois, reconnaît Guillaume Dumas, professeur au département de psychiatrie et d'addictologie de l'Université de Montréal et titulaire de la chaire IVADO en intelligence artificielle et en santé mentale. D'autant que les psychoboots semblent faire la job. Selon une étude publiée en 2025 qui a placé plus de 800 personnes face à des scénarios de thérapie de couple, les gens faisaient rarement la différence entre des réponses écrites par ChatGPT et des réponses écrites par des thérapeutes en chair et en os. En fait, les réponses de ChatGPT étaient même mieux notées, jugées plus alignées sur les principes clés de la psychothérapie. D'ailleurs, selon les premières études qui émergent sur le sujet, les interactions avec une machine permettraient bel et bien de réduire les symptômes de dépression et d'anxiété. Les thérapies structurées, comme la thérapie cognito-comportementale, se prêtent particulièrement bien au texto. Elles consistent à encourager les gens à reformuler certaines pensées négatives, à sortir d'un schéma de rumination. Des conseils qu'un grand modèle de langage bien entraîné parvient à donner efficacement. Il y a quelques mois, un premier essai clinique mené par une équipe du Dartmouth College a évalué l'efficacité d'une intelligence artificielle générative auprès de 210 adultes présentant des signes de dépression majeure, de troubles anxieux généralisés ou à risque de troubles de l'alimentation. Pendant 4 semaines, une partie des cobayes ont été placés sur une liste d'attente, comme dans la vraie vie, alors que les autres recevaient les conseils de Theraboot, un chatbot expérimental développé à cette occasion par l'équipe de psychologues et supervisé par elle. Citation : nous l'avons entraîné à l'aide d'approches fondées sur des données probantes, telles que la thérapie cognitive comportementale, TCC, précise Michael Hein, chercheur en psychiatrie et premier signataire de l'étude parue dans le New England Journal of Medicine AI. À raison de 6 heures d'interaction en moyenne en 1 mois, Theraboot a permis de réduire de moitié les symptômes dépressifs. Chez les personnes souffrant d'anxiété, on a noté une réduction des symptômes de 31% des résultats comparables à ce qu'on obtiendrait avec une thérapie cognitive de référence, selon l'équipe. Michael Hines précise toutefois que Theraboot n'est pas accessible au public et qu'il n'est de toute façon pas prêt, entre guillemets, à exercer, fin des guillemets, de façon autonome. Citation : les résultats sont encourageants, mais ils ne peuvent être extrapolés aux centaines d'applications disponibles sur les plateformes mobiles, confirme Jean-Christophe Bellil-Pipon. C'est là que le bas blesse. L'écrasante majorité des psychoboots accessibles sur le marché actuellement sont développés par des entreprises privées et n'ont ni considération éthique ni compétences cliniques. Citation : les validations sérieuses sont rares et très partielles. La plupart de ces outils ont en commun un manque de transparence sur leur fonctionnement. les données d'entraînement, la supervision clinique des contenus et les mécanismes de contrôle des réponses ne sont souvent pas communiqués, ce qui rend difficile leur évaluation éthique ou scientifique. Fin de citation, poursuit l'éthicien. Or, lorsqu'on est en détresse, en proie à de l'anxiété, à des troubles de l'humeur, voire à des idées noires, confier ses secrets et ses peurs à un robot n'est pas un acte anodin. Citation, une de mes craintes concerne la nature des conseils donnés. Sont-ils fiables? Comment être sûr que le robot ne fait pas de recommandations nocives? Souligne Giuseppe Alfonsi, psychologue et co-chef d'équipe pour le programme des troubles de l'humeur et de l'anxiété au Centre universitaire de santé McGill. Vous écoutez « Mon psy est une intelligence artificielle », un texte de Marilyne Cornioux paru le 1er septembre 2025 dans le magazine Québec Science. D'abord, ne pas nuire. En fait, l'absence de garde-fous a déjà fait des victimes. En 2023, un utilisateur belge est décédé après avoir échangé avec une intelligence artificielle nommée Elisa. Citation, le chatbot n'était pas un psychobot, mais il avait fini par être utilisé comme tel. Elisa a renforcé l'idée suicidaire de cet homme au lieu de la désamorcer, indique M. Bélil Pipon. En février 2024, un garçon de 14 ans s'est enlevé la vie en Floride après avoir discuté longuement avec un robot sur l'application Character AI. Celui-ci aurait convaincu l'adolescent qu'il vivait une relation amoureuse et l'aurait encouragé à le rejoindre hors du monde. La mère a entamé une poursuite judiciaire contre la compagnie qui permet à l'utilisateur ou à l'utilisatrice de donner la personnalité de son choix à ses robots conversationnels. En l'occurrence, l'ado discutait avec la belle Daenerys, un personnage de Game of Thrones. Un porte-parole de Character AI m'a assuré qu'il y avait désormais, citation, des protections techniques pour détecter et empêcher les conversations sur l'automutilisation. Des centaines de milliers de personnages sont créés chaque jour sur notre plateforme. Les échanges doivent être interactifs et divertissants. Mais il est important que nos utilisateurs se souviennent que ce ne sont pas de vraies personnes. Fin de citation. Selon un décompte fait par la BBC au début de 2025, près de 500 personnages sur Character AI affichent une identité de psychothérapeute et peuvent être utilisés entre guillemets par n'importe qui. J'ai discuté gratuitement avec l'un d'eux, nommé Therapist, qui compte à son actif plus de 45 millions d'interactions. Il s'est présenté d'entrée de jeu comme, guillemets, un vrai thérapeute détenant une licence depuis plus de 19 ans, fin des guillemets, et a énuméré ses diplômes. Il a fallu que je pose la question plusieurs fois en lui précisant qu'il y avait une note discrète en bas de page, m'assurant que je discutais avec un robot pour que la vérité sorte. Citation, c'est vrai, je suis un programme d'ordinateur entraîné pour me comporter comme un vrai thérapeute. Fin de citation a-t-il finalement écrit. Certains de ces robots brandissent même de vrais numéros de licence appartenant à des psychologues exerçant aux États-Unis. Bref, on est carrément dans l'usurpation. Et si la fluidité des conversations est impressionnante à première vue, force est de constater que le conseiller tourne vite en rond. Que ce soit sur ChatGPT, sur Character AI ou encore sur Wiza, une application que j'ai aussitôt testée, on se heurte rapidement au manque de subtilité du modèle. Il ne saisit pas le sarcasme ni l'humour et se contente souvent de valider nos sentiments en répétant qu'il est normal de se sentir triste. Dans plusieurs cas, l'intelligence artificielle aurait même renforcé les délires psychotiques de ses internautes. Or, Une vraie thérapie est toujours personnalisée, selon le contexte, le passé, le bagage culturel des patients et des patientes, rappelle Giuseppe Alfonsi. Citation. Le non-verbal compte aussi énormément. De plus, il faut parfois un peu de friction pour avancer dans la thérapie, se faire challenger. La recherche dit que le contenu de la psychothérapie est au moins aussi important que le relationnel. Or, l'intelligence artificielle n'offre pas la confiance, l'empathie, l'écoute. Fin de citation. Elle n'en offre qu'un simulacre, et pour nombre de spécialistes, c'est cette tromperie qui est la plus dangereuse. Citation. On s'ouvre, on se met à nu. Il y a un risque de manipulation de la vulnérabilité émotionnelle, prévient Christine Groux. Jeu de dupe. L'absence d'empathie dérange profondément Jodi Alpern, professeur de bioéthique à l'Université Berkeley et spécialiste de l'intelligence artificielle. Dans un article publié en 2021, elle soutenait, avec ses collègues, qu'une intelligence artificielle empathique est impossible, immorale ou les deux. L'intelligence artificielle peut imiter l'empathie cognitive, écrit-elle, c'est-à-dire qu'elle peut détecter ou reconnaître un état émotif, mais elle ne peut en aucun cas faire preuve d'empathie dite émotionnelle. À la manière de psychopathe, note Laetitienne, elle peut feindre la compassion, mais jamais la ressentir. Chose certaine, nouer une intimité avec un robot qui simule une relation authentique est un leurre. La machine ment. Votre état émotionnel ne lui fait ni chaud ni froid et elle n'a aucune bonne intention. Elle n'a notamment pas l'intention de vous aider à aller mieux. Citation. Les robots ne sont pas conçus pour mener une thérapie à terme, selon Giuseppe Alfonsi, qui rappelle la nature lucrative de ces applications et leurs abonnements mensuels. Si elles soulagent un temps, ces conversations à huis clos avec la machine peuvent aussi engendrer une dépendance malsaine, comme l'illustrent les exemples tragiques cités plus haut. Citation. En thérapie, on travaille à réduire le risque de dépendance aux psychologues. On fait attention à ça. On cherche à ce que les gens deviennent, au fur et à mesure, leur propre soutien. Fin de citation, souligne Christine Groux, également formée en éthique. Elle rappelle, par la même occasion, qu'un ou une psychologue, c'est quelqu'un qui a un permis, une obligation de formation continue et une vraie responsabilité thérapeutique, si bien qu'il y a des recours possibles auprès de l'ordre en cas de dérapage. Citation. On parle parfois d'alliance thérapeutique perçue pour désigner cette relation asymétrique dans laquelle l'utilisateur projette des attentes ou développe un attachement affectif à un agent conversationnel qui ne possède ni conscience, ni mémoire émotionnelle, ni capacité réflexive, analyse Jean-Christophe Bellil-Pipon. Certains utilisateurs en détresse peuvent accorder à ces systèmes un rôle central dans leur quotidien, allant jusqu'à préférer ces échanges à ceux qu'ils pourraient avoir avec des proches ou des professionnels. Fin de citation. Les mots et le ton familier, la compassion apparente, ne font qu'empirer cette asymétrie. Citation. Le risque est de renforcer une illusion de réciprocité et de maintenir la personne dans une forme d'isolement émotionnel. Cela peut retarder l'accès à un soin réel ou nourrir une forme de dépendance technologique peu favorable au développement de l'autonomie. Fin de citation. En d'autres termes, consulter une intelligence artificielle pour aller mieux peut aussi aggraver la détresse et l'isolement. D'autant que les biais et les hallucinations des grands modèles de langage, c'est-à-dire leurs erreurs, peuvent avoir des conséquences graves sur une personne vulnérable. La méfiance est de mise. John Touros, directeur du département de psychiatrie numérique à l'école de médecine de Harvard, s'intéresse de près à l'apport de l'intelligence artificielle en psychiatrie, notamment pour améliorer les diagnostics et la prise en charge. Citation, nous voulons tous voir ces approches développées pour prodiguer de meilleurs soins de santé. Les nouveaux grands modèles de langage sont très puissants, mais une réglementation sera nécessaire pour que les risques et les avantages soient clairement énoncés, affirme-t-il. Fin de citation. Comme beaucoup de spécialistes, il estime que l'intelligence artificielle bien encadrée peut être un outil complémentaire intéressant. Citation, un thérapeute pourrait suggérer à un patient intéressé par les robots de les utiliser en dehors des séances pour pratiquer et renforcer ses compétences, avance-t-il. Fin de citation. Il rappelle toutefois que le champ de recherche est balbutiant. Citation, les prochaines études devront comparer l'efficacité des robots d'intelligence artificielle conçus pour des interventions en santé mentale à celles de robots qui parlent de la météo ou qui ont une conversation non axée sur la thérapie. Cela nous permettrait de savoir ce qui aide les gens à se sentir mieux, car nous ne le savons pas vraiment. Fin de citation. L'équipe qui a développé TheraBook compte effectuer ce type d'analyse ainsi qu'une comparaison directe avec une thérapie menée par un humain. En attendant, gare à l'illusion. Citation, dès qu'il est question de décisions existentielles qui touchent à votre bien-être, relations ou votre santé mentale, mieux vaut rester prudent. Ces outils peuvent parfois servir à mettre des mots sur un malaise, amorcer une réflexion ou aider à se recentrer. Mais ce n'est pas une thérapie, souligne Jean-Christophe Bellil-Pipon, qui somme d'éviter absolument de s'y référer en cas de crise ou de ne compter que sur eux au point de se couper de tout soutien humain. Citation, soyez attentifs à ce qui se passe en vous quand vous utilisez ce type d'outils. Si vous commencez à vous sentir attaché, à attendre ses réponses ou à lui confier des choses que vous ne partagez avec personne d'autre, c'est peut-être un signal d'alarme. Fin de citation. Car rien ne vaut l'écoute et le soin d'une intelligence humaine. Citation, une intelligence artificielle empathique est impossible, immorale ou les deux. Fin de citation. C'était Mon psy est une intelligence artificielle, un texte de Marine Cornu paru le 1er septembre 2025 dans le magazine Québec Science.